Eureka, c'est l'été.
Mère Nature fait bien des choses. Si le terrain est bon, vous ne tomberez pas malade. Cet argument avancé par les anti-vaccins aurait parfois conduit à des catastrophes sanitaires. Pourquoi se vacciner alors qu'un vaccin, c'est de la médecine préventive contre un virus qui aurait disparu et dont on ne voit plus les effets? Dès lors, se faire vacciner ne serait-ce pas prendre un risque pour quelque chose qui ne risque pas, en fait, de nous arriver? Élément de réponse avec Cécile Poss.
Quand une maladie disparaît ou a presque disparu, les gens n'ont plus peur que des effets secondaires du vaccin puisqu'ils n'ont plus peur de la maladie.
Avant cet épisode du Covid-19, nous étions nombreux à penser que les épidémies concernaient le monde d'hier. Et pour cause, grâce aux couvertures vaccinales, les épidémies sont rares, nous n'étions plus en contact avec certains virus et bactéries, ce qui a pu faire croire à certains qu'ils avaient disparu. Et puis, nous ne voyons plus les effets catastrophiques de ces maladies, les séquelles, la souffrance et le nombre de morts qu'elles occasionnent. Alors pour certains, comme le vaccin c'est de la médecine préventive contre un virus qui a disparu, pourquoi se vacciner?
Vous allez peut-être rencontrer le microbe, peut-être vous n'avez pas rencontré le microbe, et vous vous dites, est-ce que je ne prends pas un risque maintenant pour quelque chose qui ne m'arrivera pas?
Et c'est ce décalage entre le risque de maladie, qui n'est pas là.
Laurent-Henri Vigneault, historien des sciences.
Avec le risque de la prise du médicament, qui, bien que très faible, est quand même là, qui est l'une des premières raisons pour lesquelles on se méfie des vaccins, outre le fait que beaucoup de vaccins sont communiqués par piqûres et personne n'aime les piqûres, surtout pas les enfants, ni même les adultes.
Les arguments des anti-vaccins sont sensiblement les mêmes qu'à l'époque. Au XVIIIe et XIXe siècle, c'est l'argument religieux qui était avancé. On ne pouvait pas aller contre le dessein de Dieu. Si votre destin était de mourir de la variole, vous ne pouviez pas, vous, pauvre humain, intervenir et vous vacciner. Cela aurait contrecarré les plans divins. Cet argument est toujours présent dans certaines sociétés, mais l'argument s'est plus largement déplacé. On parle aujourd'hui plutôt de sacralité de la nature. Le naturalisme, le vitalisme, l'écologie politique vont parfois de pair avec l'anti-vaccinisme. Pourquoi ?
Les anti-vaccins les plus déterminés, les plus convaincus, se rattachent à des théories alter-scientifiques, quand elles ne sont pas tout simplement pseudo-scientifiques, du terrain, c'est-à-dire ce qu'on appelle des théories holistes, des théories selon lesquelles on ne devient malade qu'à partir du moment où on a un mauvais mode de vie. On se nourrit mal, on ne fait pas de sport, on vit dans un environnement pollué, etc.
L'argument « la nature est bonne et si on est en bonne santé, si on est bien aimé par ses parents », le terrain est quand même très très vaste.
Françoise Salvadori, immunologiste.
Cet argument-là existe depuis le début, au point qu'au XIXe siècle, on en arrivait à dire que c'était la maladie elle-même qui était bonne parce qu'elle était naturelle. Donc il fallait respecter la maladie, d'une part parce que peut-être elle nous protégeait d'autres maladies, et d'autre part aussi parce qu'elle avait un rôle de raisonnement presque eugéniste, de d'épuration de sujets fragiles. Donc ça se retrouve un petit peu actuellement dans les médecines holistes, c'est les médecines qui englobent naturopathie, mais même homéopathie ou ostéopathie, certains courants de ces médecines-là, en tout cas, reposent sur un équilibre des humeurs, et donc considèrent le terrain beaucoup plus que les microbes. C'est quelque chose qui a perduré, mais ça repose sur une idée quand même assez naïve, qui consiste à dire que la nature fait bien les choses. Jusqu'à ce que l'hygiène, les vaccins et les antibiotiques existent, l'espérance de vie a très peu augmenté, du fait de notre fragilité réelle et continue. Et comme on le voit encore cette année, l'espèce humaine n'est pas devenue plus résistante. Dès qu'il apparaît un nouveau virus ou un nouveau parasite, eh bien on reste très très fragile. Et on attend un vaccin ou un médicament.
Ces préceptes sont d'application dans certaines écoles qui suivent les idées de l'anthroposophe et père de l'agriculture biodynamique, Rudolf Steiner. Ce sont les écoles Steiner-Waldorf ou encore les écoles Freinet. Certaines d'entre elles, pas toutes, mais certaines d'entre elles suivent un naturalisme assez poussé dans lequel les vaccins sont déconsidérés.
Souvent, ce qui motive ces pratiques pédagogiques alternatives, ce sont des théories naturalistes. C'est du rousseauisme en fait, hein, c'est améliorer, que l'enfant s'élève très bien tout seul. Alors de la même manière qu'il va s'éveiller tout seul en jouant avec ses camarades, avec une intervention minimale du professeur qui est juste là pour guider un peu les apprentissages, eh bien, de la même manière, on va trouver des pratiques pédagogiques associées à des pratiques sanitaires indiquant que l'enfant est naturellement en bonne santé, il est naturellement protégé, et donc tout ce qu'il faut, c'est maintenir un mode de vie qui n'entraîne pas un stress qui le conduirait vers la maladie. Il faut savoir que dans ces années 20-30, c'est aussi la naissance du mouvement écologiste qui est un retour à la nature.
Une épidémie de rougeole qui sévit en Alsace et elle progresse très rapidement parce que de plus en plus de parents refusent cette vaccination qui n'est pas obligatoire.
50% d'enfants inscrits dans une école Steiner près de Colmar en France n'étaient pas vaccinés contre la rougeole et ce sera l'un des foyers épidémiques en 2015. L'école ferme, les autorités sont placées en quarantaine et parmi les arguments avancés par les parents, il y a celui que la rougeole fait grandir les enfants. Un autre veut même laisser faire la nature et il ajoute que les maladies infantiles permettent de renforcer les défenses immunitaires naturelles de l'enfant. Comme si l'immunité induite par le vaccin était moindre que l'immunité naturelle.
Quand on fabrique un vaccin, on essaie de coller au plus près à la réponse immunitaire naturelle. Mais parfois, il faut faire mieux que la nature, entre guillemets. Dans le vaccin antitétanique, si vous êtes en contact un jour avec ce bacille, et en particulier avec la toxine, elle tue les gens qui sont malheureusement infectés par ce bacille tétanique, et vous mourrez sans être immunisé. Et donc dans le cas du vaccin antitétanique, qui existe depuis plus d'un siècle, le vaccin fait mieux que la nature, c'est-à-dire d'utiliser une forme inactivée, légèrement modifiée de la toxine, prépare le système immunitaire, alors que la toxine elle-même ne peut pas le faire. Donc ça c'est un cas extrême où le vaccin fait mieux que la nature.
Qu'est-ce qu'on attend par immunité la même? C'est plus parfois la durée de protection. Quand on fait une maladie de façon naturelle, qu'on en survit, oui, sans doute que la durée de protection va être plus longue que pour certains vaccins où, du fait du développement, on a pris effectivement qu'une toute petite partie de l'agent infectieux. Et c'est pour ça que pour beaucoup de vaccins, il faut des rappels. Et que ces rappels sont extrêmement importants parce que si on ne le fait pas, à long terme, la personne ne peut ne plus être protégée.
Une séquence proposée par Cécile Posse.